Nous en sommes restés au chapitre 3 de l'évangile de Jean et nous devons reprendre au verset 9. Toutefois, nous allons relire à partir du verset 6. Et notre étude reprendra au verset 9. Chapitre 3, selon l'évangile de Jean. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je m'arrête là parce que les versets suivants sont très chargés d'une puissante révélation, et si je prenais tout cela ce matin, je serais obligé d'aller trop vite et puis de passer trop rapidement sur des choses pourtant extrêmement faisantes de sens. Nous commençons donc au verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Ce que tu me dis là, c'est étrange. Bon, je veux bien une naissance d'eau et d'esprit, mais je ne vois pas du tout comment les choses peuvent se faire. Et c'est alors que Nicodème s'attire cette réponse de Jésus. Tu es le docteur, comment toi, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Autrement dit, tu devrais les savoir. Étant docteur, connaissant les Écritures, tu devrais savoir ces choses, c'est dans les Écritures. Ce que je te dis là n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un apport nouveau, c'est quelque chose que tu aurais dû retirer toi-même des Écritures. À un certain moment, le Seigneur, n'est-ce pas, leur dira, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et si elles rendent témoignage de Christ, elles rendent témoignage de sa mission, de son œuvre, et notamment de cette naissance d'en haut dont il vient apporter la réalisation. Tu devrais savoir ces choses. Alors là, un grave problème s'ouvre. Un problème, c'est-à-dire qui n'est pas resté logé dans le temps de ce passage de la loi à la grâce, dans le temps de la présence physique de Jésus sur la terre, mais un problème qui est toujours le nôtre. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il faut s'arrêter sur les choses, les énonciations de l'Évangile, elles nous sont très précieuses. Nous allons nous informer de ce problème. Donc, Nicodème, qui, il faut bien le dire, n'est-ce pas, est un homme, ce n'est pas une contestation qu'il soulève là, ce n'est pas un combat qu'il engage, mais vraiment, il ne comprend pas, il ne voit pas, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Il est venu s'informer. Mais Nicodème est certainement un homme humble, un homme droit, et qui un homme pieux même. Évidemment, il est dans la pensée des pharisiens, mais c'est un homme droit, un homme pieux. Et comment pouvons-nous le savoir? Il n'y a pas d'appréciation formelle sur lui, là, ici. Ben, vous voyez, il faut savoir lire quelquefois un petit peu entre les lignes de l'Évangile. On ne dit pas naturellement placer soi-même quelque chose entre les lignes, mais il faut savoir tirer parti de l'Évangile pleinement. Eh bien, pourquoi cet homme, peut-on dire qu'il est droit, qu'il est humble et qu'il est pieux, qu'il cherche sincèrement un enseignement sur tout cela? Eh bien, on peut le dire parce que Jésus va lui répondre, et lui répondre longuement. Vous voyez, nous ne pouvons même pas aujourd'hui prendre toute la réponse du Seigneur pour l'Évangile qui rapporte cet entretien. C'est une longue réponse, c'est une réponse explicitée, c'est une réponse qui contient des choses puissantes, un développement magnifique. Et cela, le Seigneur ne pouvait le donner qu'à quelqu'un dont il lisait dans le cœur la droiture. En effet, nous avons lu ceci pendant que Jésus était dans le chapitre précédent, chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaît tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage aucun homme, mais il savait lui-même ce qui était dans l'homme. S'il avait lu donc cette hostilité, cette incrédulité tenace qu'il lira dans d'autres pharisiens, n'est-ce pas? Eh bien, il aurait dit à Nicodème, race de vipère, ou il lui aurait dit, n'est-ce pas, hypocrite que tu es. Il n'a pas hésité, le Seigneur, à le dire, n'est-ce pas? Mais là, au contraire, il lui répond avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience et dans le désir, vraiment, de lui exposer ces choses. C'est donc qu'il pouvait se fier à lui, il disait dans son cœur, de bonnes dispositions. De l'ignorance, certes, qui n'aurait pas dû être, mais de bonnes dispositions. C'est toujours quand il y a des bonnes dispositions dans un cœur que Dieu répond. Mais, voyons, il aurait dû savoir ça. Où aurait-il trouvé ça? Où aurait-il trouvé cet enseignement particulier de Jésus sur la nouvelle naissance? Je pense que si on demandait à bien des chrétiens de nous montrer dans l'Ancien Testament ce qui concerne la nouvelle naissance, ils se gratteraient la tête, n'est-ce pas? Et puis ils diraient, je sais pas, il faut que je cherche. Dans le Nouveau Testament, c'est clair, c'est net, mais dans l'Ancien, je ne sais pas trop où aller chercher ça. Eh bien, évidemment, c'était, nous l'avons dit, les vérités, les grandes vérités étaient voilées, mais nous allons voir que cependant, elles n'étaient pas voilées au point qu'on ne puisse les découvrir, puisque ici, Jésus fait en quelque sorte un doux grief à Nicodème, docteur d'Israël, de ne pas avoir découvert ces vérités. Eh bien, nous allons regarder quelques passages rapidement de l'Ancien Testament, où Nicodème aurait dû trouver l'amorce de cette vérité de la nouvelle naissance. Deutéronome 30, chapitre 30 et verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Circoncira. S'il avait réfléchi, s'il avait médité sur ces choses, il dit, mais circoncire un corps, c'est vraiment lui conférer une qualité, des possibilités qu'il n'a pas naturellement, ce cœur. Il faudra donc un changement de cœur. Voilà, déjà, n'est-ce pas quelque chose? Allons au psaume 51. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. C'est David qui le dit, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc régner la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, Renouvelle-moi un, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle, c'est-à-dire fait par nouveauté venir. Renouvelle, ça ne veut pas dire j'avais déjà un esprit pur et puis je l'ai perdu, un cœur pur, redonne-moi un cœur pur. Ben, ça veut dire plus exactement renouvelle-moi en me donnant, en mettant en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Et ça, s'il avait médité ces choses, il serait dit, David demande là des choses qui débordent la loi de Moïse, les moyens de la loi de Moïse. Ça déborde nettement. L'hysope, certes, c'est ce rameau, cette plante qui poussait dans les murs, n'est-ce pas, en général, et qui, on cueillait, ça constituait un petit, une espèce de petits rameaux, n'est-ce pas, je cherche là, une espèce de goupillon comme avaient les catholiques, n'est-ce pas, les prêtres catholiques, eh bien ça constituait, n'est-ce pas, une sorte de rameau qu'on pouvait plonger dans le sang et avec ça faire l'aspersion du sang. Alors purifie-moi avec l'hysope, c'est-à-dire avec l'aspersion du sang. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Eh bien, c'est bien ce que va faire le Seigneur Jésus. Je vous donne ma joie. Je vous donne ma joie, dira-t-il. Mais ça, elle sera donnée pleinement dans la nouvelle économie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. L'annonce du péché, de mon péché, m'a brisé. Paul dira, avant que la loi vînt, je vivais. Mais depuis que la loi est venue, eh bien, je mourus. Par la loi, je mourus. C'est cela que, ici, veut dire le prophète David. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais venir en moi un esprit bien disposé. C'était quelque chose, n'est-ce pas, qui débordait les possibilités, les ordonnances et les promesses de la loi de Moïse qui promettait une vie sur la terre heureuse et qui promettait de longs jours, mais qui ne promettait pas plus. Et il fallait être fidèle, bien sûr, mais aussi venir chaque fois que nécessaire à la purification. Donc il y avait là quelque chose qui aurait dû faire réfléchir un docteur s'il avait eu cette foi pénétrante qui lui manquait. Et je dis bien foi pénétrante, et nous allons voir que ça peut nous manquer, nous aussi, la foi pénétrante. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », c'est-à-dire « Ayez communion avec l'Éternel », car tous me connaîtront, tous auront communion avec moi, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ça là-dessus, n'est-ce pas, alors ça aurait dû être tout à fait une révélation pour Nicodème, se disant, eh bien vraiment, alors c'est quelque chose qui va venir après cette alliance. L'alliance de Moïse n'a pas donné cela, mais il faudra une nouvelle alliance que le Seigneur apportera à son peuple, certes, d'abord à son peuple, mais il faudra l'avenue de cette nouvelle alliance. Il y a là, n'est-ce pas, des actions de Dieu qui ne se sont pas encore déroulées sous l'empire de la loi de Moïse. Et puis, Ézéchiel chapitre 11, verset 19, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. »
Eh bien, ça aussi, Nicodème aurait pu dire, reliant tous ces passages, eh bien, vraiment, nous avons, oui, un cœur de pierre, et le Seigneur n'a pas encore retiré ce cœur de pierre à son peuple. Il faudra qu'il le fasse, puisqu'il l'a promis. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Là, la naissance d'eau dont parle le Seigneur aurait dû éclairer Nicodème. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Là, n'est-ce pas, Nicodème aurait pu se dire, tiens, naissance d'eau. En effet, il est bien question dans le prophète d'une naissance d'eau. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et puis, une naissance d'esprit, je mettrai mon esprit en vous. En effet, n'est-ce pas, il y a bien cela. Il aurait dû, n'est-ce pas, savoir, se reporter à ces passages qu'il connaissait littéralement, mais auxquels il n'avait accordé aucune envolée, aucune vérité, une vérité essentielle, n'est-ce pas? Il était passé là-dessus, comme nous encore nous passons, méchants que nous sommes. C'est le Seigneur qui a dit ça, méchant que vous êtes, n'est-ce pas? Pas moi. Méchants que nous sommes, c'est-à-dire insuffisant en foi, gens de peu de foi. Voilà le grief du Seigneur pour nous. Gens de peu de foi. On voit ici, en somme, une chose. Une chose, n'est-ce pas, chez ce Nicodème, voyez-vous, il faut méditer cela, c'est utile. On voit une chose, c'est que cet homme connaissait, littéralement, vous pouvez lui faire confiance, il connaissait les Écritures, il devait connaître même des choses par cœur. Capable de les citer comme ça. Connaissait très bien les Écritures, on y venait souvent. Et ce qui lui manquait, pour comprendre, pour déloger de la lettre la vérité profonde, la vérité qui était là sous-jacente, ce qui lui manquait, c'était l'esprit prophétique. Ah, chers amis, nous touchons là le problème dont je vous parlais tout à l'heure et qui est un problème actuel. Et nos églises qui sont nées avec l'esprit prophétique sont en train de le perdre. Sommes en train de le perdre, de gaspiller, de le perdre. Et nous retournons à la lettre, nous retournons au formalisme. Les pharisiens aussi étaient des gens attachés à la lettre et des formalistes. On ne peut pas, quand on est attaché à la lettre, on est des formalistes. Un de ces jours, on viendra avec un centimètre pour mesurer les cheveux. Les heures. N'est-ce pas? Où on viendra derrière, n'est-ce pas, pour voir si quelqu'un dans la rue, comment il se comporte, il y a des choses, des règles, n'est-ce pas? C'est tout ce que nous voyons du christianisme. Je ne dis pas que les cheveux doivent être courts, mais, chers amis, ce n'est pas aux cheveux que le Seigneur veut nous mesurer. Il a une autre mesure, n'est-ce pas? Il veut nous mesurer à la mesure que nous employons nous aussi, pour les autres. Il veut nous mesurer, en somme, à la foi, et à la foi agissante, par l'amour. Donc, l'esprit prophétique. Cet homme était dénué de l'esprit prophétique. Or, l'esprit prophétique, eh bien, l'esprit prophétique, nous avons déjà vu le passage, mais revenons-y. Apocalypse 19, 10, chapitre 19, et verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'était ces gens qui parlent, et il était devant un ange. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Tes frères qui ont le témoignage. Nous avons déjà dit qu'avoir le témoignage de Jésus, c'était ça, n'est-ce pas, être un témoin de Jésus, et c'était ça, être un disciple dans sa mission. Bon, continuons. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Si je n'ai pas l'esprit de la prophétie, je n'ai pas le témoignage de Jésus. Je suis un homme qui parle de la lettre, un homme ou une femme qui est capable, n'est-ce pas, de légiférer à tort et à travers, et qui met les autres sous un joug qui n'est pas le joug de Christ, n'est-ce pas? Je suis en dehors du témoignage de Christ, je n'ai pas le témoignage de Christ si je n'ai pas l'esprit de la prophétie. Et je n'y comprends rien à l'évangile si je n'ai pas l'esprit de la prophétie. Faute de cet esprit, chers amis, cet esprit-là, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ce qui veut dire, on ne peut pas avoir le témoignage de Jésus si l'on n'a pas l'esprit de la prophétie. Et pour ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est ceux qui précisément étaient animés, étaient remplis, étaient imprégnés de cet esprit de la prophétie. Eh bien, faute de cet esprit, la révélation qui est là, qui nous est donnée par le moyen des Écritures, la révélation de Dieu se transforme, se déforme. Elle n'est plus elle-même. Elle se transforme. Elle paraît ne définir qu'un état terrestre, qu'une situation terrestre, et vouloir n'apporter qu'un royaume terrestre. Nous croyons, nous, à un royaume à venir. Nous ne sommes pas encore tout de même déchus à ce point-là, n'est-ce pas? Nous croyons encore à un royaume à venir, mais souvent, nous faisons notre christianisme une affaire terrestre. Et nous réglons toute chose, n'est-ce pas? Une église, une belle salle, des chaises, confortables. Et puis, n'est-ce pas, un bon pasteur. Toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qui nous paraissent bonnes. Et puis voilà, avec ça, on va être heureux, on va être très bien, n'est-ce pas? Nous nous installons ici et nous perdons complètement pied dans l'esprit de la prophétie. Au 14 juillet, ici, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, nous avons un très bon pasteur, nous avons un bon pasteur. Je dis, je m'en réjouis. Vous allez pouvoir alors grandir, vous allez pouvoir vraiment, nous allons avoir une église, vous savez, magnifique, nous allons être bien, nous allons être très bien, dans de bons messages, ben, ils sont très bien, nous avons un bon pasteur. C'est désolant. Est-ce qu'il va être sauvé à cause de son bon pasteur, celui-là? Est-ce que c'est le fait qu'il a un bon pasteur qui va faire qu'il est sauvé? Est-ce que c'est ça qui va faire qu'il sera, lui, un témoin de l'Évangile? C'est bien qu'il est un bon pasteur, il faudrait le souhaiter à toutes les églises, bien sûr, et être attristé quand il y en a un mauvais, n'est-ce pas? Mais, bien sûr, nous désirons cela, nous prions le Seigneur pour qu'il donne des ministères qui soient vrais, qui soient exactement ce que Jésus désire, n'est-ce pas? Des ministères fidèles, s'exerçant dans la fidélité. Oui, nous désirons cela. Mais même cela, ce n'est pas cela qui va vous sauver. Cela vous aidera, cela sera pour vous un bon secours, cela sera pour vous utile. Mais cela ne vous sauvera pas, n'est-ce pas? Vous voyez comme nous perdons pied dans l'esprit de la prophétie. Quand j'entends parler des églises, ben oui, nous avons maintenant, c'est bien, nous avons telle chose, ça s'est arrangé comme ça, nous sommes bien, nous avons une bonne église, vous savez, ça va bien, oui. Nous avons de bonnes réunions, oui. Oh, puis on a des rencontres, c'est formidable, c'est très bien, n'est-ce pas? Travaillez pour la nourriture qui subsiste jusqu'en vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Travaillez pour cette nourriture, chers amis. Si nous travaillons pour la nourriture d'en bas, tout se perd. Tout cela va disparaître. N'est valable et ne subsistera en vie éternelle que tout ce qui aura été fait par l'Esprit de Dieu. Alors, nous pouvons être assis sur des chaises, nous pouvons être dans une belle salle, nous pouvons écouter des beaux discours, n'est-ce pas? Nous pouvons même élever des prières. Si rien de cela n'est vraiment produit de l'esprit, eh bien c'est zéro, c'est du vent qui disparaît. Et le Seigneur de nous dire, comme il a dit à son peuple d'Israël autrefois, vos sacrifices, je n'en veux pas. Je ne vous ai pas demandé de sacrifice. Et pourtant, il l'avait demandé. Je ne vous en ai pas demandé. Tel que vous les concevez maintenant, je n'en veux pas de vos sacrifices. Gardez tout cela pour vous. Je ne veux pas de cela. Ce que je veux, c'est des cœurs qui soient ouverts, qui soient humbles, qui soient dépositaires de l'amour. Ah, mes amis, ce n'est pas, c'est pas de dire, n'est-ce pas, nous sommes plus ou moins près de la du niveau de du bon niveau, nous sommes mieux que d'autres. Ça ne sert à rien tout cela. Enfin, il faut savoir que ce que nous faisons, rien ne subsistera en vie éternelle que ce que l'Esprit aura fait par nous ou par l'Église. Mais c'est l'Esprit. Ce qui est fait par l'Esprit subsistera. Tout le reste disparaîtra. Ainsi, donc, n'est-ce pas, il nous faut l'Esprit de la prophétie. L'Église traditionnelle, l'Église de tradition, j'entends par là le catholicisme, le protestantisme et autre chose, tout ce qui est aujourd'hui Église de tradition. Eh bien, cette Église de tradition, les orthodoxes, etc., tous les mouvements même dérivés de la Réforme, ça, ils sont tous dans la tradition et dans quelquefois même dans une tradition absolument hors de toute sagesse. Eh bien, donc, toute cette Église de tradition, nous voyons, est tombée dans l'obscurcissement. Elle est tombée dans l'obscurcissement. Bon, ça, nous le savons. Nous le disons souvent. Disons, oh, des protestants, ceux-là, hein, nous ne sommes pas comme ça, nous, n'est-ce pas? Mais attention de ne pas être comme ça. Nous sommes... elle est tombée, cette Église, dans l'obscurcissement. Et elle a voulu voir s'implanter dans le présent de la terre le royaume de Christ. Et les protestants sont là aussi. Ça. Alors ils ont écarté le millénium. L'éternité, ben, ce sera cette petite affaire de la terre qui se sera arrangée, n'est-ce pas? Ça sera amélioré, puis à ce moment-là, les hommes iront vont aller dans le cosmos, ils auront élargi un petit peu la propriété. Ça. Et alors, à ce moment-là, bah, ce sera l'éternité, comme ça, ça viendra, n'est-ce pas? Voyez-vous, ils en arrivent à ça, les protestants aussi. Les protestants, autant que les catholiques, sinon plus, ça, ils ont tous supprimé le millénium. En supprimant le millénium, ils ont supprimé le siècle à venir. On ne veut pas du siècle à venir, mais non, le siècle à venir, c'est le siècle présent qui s'améliore. Ça, voyez-vous, et les juifs, on était là, n'est-ce pas, c'était l'état d'esprit des juifs. Mais c'est encore, vous le voyez, l'état d'esprit que le christianisme adopte lorsqu'il perd l'esprit de la prophétie. Alors l'Église de tradition a manqué à voir la création nouvelle qui doit s'opérer dans les cœurs pendant ce siècle-ci, n'est-ce pas, pendant ce siècle-ci, il y a la transformation en vue d'un beau. En vue, n'est-ce pas, d'une transformation qui viendra à l'issue des jugements et qui apportera le siècle nouveau, le siècle à venir. Ah, mes amis, nous ne comprendrons rien à l'Évangile, ni dans les petites choses, ni dans les plus grandes, si nous n'avons pas l'esprit de la prophétie pour le consulter. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul nous démontre, n'est-ce pas, lorsque il dit... Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Aucun des chefs des Juifs, qu'ils soient religieux ou autre chose, aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, mais que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Le voilà l'Esprit de la prophétie, par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le témoignage de Jésus, c'est l'Esprit de la prophétie. Sans cet Esprit de la prophétie, eh bien, vous êtes quoi? Des bibliolâtres. Vous êtes des gens attachés à la lettre, vous ferez des jeux bibliques avec l'écriture, vous passerez sur des grandes vérités sans les reconnaître, voilà ce qui arrivera. L'apôtre Paul nous a dit aussi cette parole importante que vous connaissez. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, n'est-ce pas, il s'est trouvé des gens mal avisés, il y en a tellement, de ces gens mal avisés. Mais c'est terrible quand ces gens sont mal avisés et s'occupent d'écriture, et s'occupent des choses de la foi. Il y a des gens mal avisés qui ont dit, mais la lettre tue, c'est pas la lettre des écritures qui tue, voyons, c'est la lettre autre chose, n'est-ce pas, ceux qui ont une fâcheuse habitude de s'attacher à la lettre de ce qu'ils consultent, etc. Il s'agit des écritures. Les écritures consultées uniquement selon la lettre, n'est-ce pas? Si la lettre seule est prise en considération, si l'on essaie uniquement de faire de l'exégèse, de triturer la lettre pour essayer d'en faire sortir quelque chose, on en fera sortir quelque chose d'humain, on en fera sortir quelque chose qui n'a rien à voir avec la révélation de Dieu, on verra toutes sortes de choses, un royaume actuel, n'est-ce pas? On verra des prescriptions toutes déformées qui n'auront aucun sens et on ne verra pas le fond des vérités. Les vérités du royaume de Dieu, on les manquera entièrement. Et chers amis, si ça s'est passé pour les Juifs au moment où Jésus venait sur cette terre et s'il a dû dénoncer cela vigoureusement, eh bien, aujourd'hui, dans l'Église, je vous le répète, ça a recommencé. Alors, nous le savons, c'est arrivé jusqu'à notre 20e siècle, toutes sortes d'Églises sont tombées dans cet errement, et vous croyez que nous ne risquons pas d'y tomber, mais bien sûr, nous avons déjà mis un ou deux pieds sur les marches qui descendent dans cette fosse. Et si nous ne nous ressaisissons pas, eh bien, nous deviendrons, nous aussi, des littéralistes, n'est-ce pas, attachés à la lettre, et nous aurons, quoi? La mort, pas autre chose, et non la vie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ah. Et quand je vois, par exemple, que dans le mouvement, on a commencé à nous détruire l'Antichrist, à le supprimer, eh bien, je dis, l'esprit de la prophétie est en recul. On l'oublie, on ne s'en sert plus. Ah, et alors, on écoute des interprétations fondées uniquement sur une étude de la lettre, et alors, naturellement, des interprétations qui font un usage de plus en plus grand de l'incrédulité, du rationalisme et de l'incrédulité. Ah, chers amis, retenez bien cette leçon-là. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Pour avoir ce témoignage, pour avoir l'Évangile, pour être capable de comprendre l'Évangile, de le vivre et de l'enseigner, il faut l'esprit de la prophétie. Si vous n'avez pas cet esprit, vous n'avez rien. Nous arrivons au verset 11. On pourrait nous dire à nous aussi, quoi? Tu es le témoin de Jésus? Tu es le prophète de Christ, toi, et tu ne sais pas ces choses. Il y a des choses que tu ne sais pas. Pourquoi? Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà un verset difficile. Il est évident que beaucoup des versets, des paroles de Christ sont difficiles et plus difficiles souvent que d'autres paroles. Il condensait sa pensée, n'est-ce pas, à l'extrême. Là, il y a tout un développement encore dans ce verset 11, n'est-ce pas? Nous disons, nous savons, nous rendons. Qui c'est ce nous? C'est pas le Seigneur Jésus tout seul, n'est-ce pas, qui peut, parce qu'il ne parle pas de lui à la troisième personne, n'est-ce pas, au pluriel, n'est-ce pas, comme un roi ou quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'attribue une autorité, ou même comme le magistrat qui constate qu'il dresse procès-verbal. Non, en vérité, je te le dis. Il parle de lui à la première personne. Je te le dis. Alors là, il y a un changement de personne. Nous disons, pourquoi ce pluriel? Nous disons, qui c'est nous? Qui sont ceux auxquels pense le Seigneur en disant, nous disons ce que nous savons? Eh bien, Il faut chercher, certes. Il faut s'informer. Il faut laisser l'esprit de la prophétie venir nous éclairer quand on veut résoudre un problème comme celui-là. Il ne faut pas, vous voyez, rester sur la lettre en disant ça peut être ceci, ça peut être cela, puis faire un tas d'hypothèses. Ben, c'est pas comme ça. Seigneur, qui sait, nous ? Nous, comprends pas, Seigneur, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Laissez l'esprit de la prophétie intervenir, et le Saint-Esprit vous dira quel est ce pluriel et ce sens. Eh bien, ce pluriel englobe Jésus, naturellement. Jésus et tous ceux qui vont faire corps avec lui dans la nouvelle économie, n'est-ce pas ? Nous disons, mais déjà, il y a quelques disciples, ils sont bien hauts, ce ne sont pas encore des docteurs de la nouvelle de la doctrine de la nouvelle alliance, pas encore des docteurs, certes, mais ils ont accepté, ils l'acceptent, ils vont s'ouvrir de plus en plus à cette doctrine, ils ne sont pas restés le nez porté sur la lettre, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas restés semblables aux pharisiens, au contraire, n'est-ce pas ? Ils s'efforcent d'exercer la foi, et alors ils entrent dans un domaine nouveau. Et c'est tous ceux qui entrent dans ce domaine nouveau qui sont ici, nous. Et vous comprenez bien que Jésus, il y a toujours, dans ce qu'il dit, une portée prophétique. D'ailleurs, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est toujours prophétique, les paroles du Seigneur. Ainsi donc, c'est Jésus et tous ceux qui vont se laisser guider par l'Esprit, ceux qui, formant l'Église à naître, vont témoigner d'une révélation de Dieu, vont témoigner d'une vérité enfin mise à découvert. C'est tout cela. Eh bien, cela, que vont-ils faire ? Ils vont apporter un mode d'enseignement tout nouveau. Là, maintenant, vient un mode apparaît un mode d'enseignement tout à fait nouveau. Il ne portera plus sur la lettre des Écritures seulement. Se servira de la lettre comme point de départ, mais il ne portera plus sur la lettre des Écritures. Il va, cet enseignement, discerner la vérité cachée, la vérité profonde que les Écritures contiennent. Et ce sera un enseignement par l'Esprit de Dieu. Un enseignement par l'esprit qui vivifie, par l'esprit de la prophétie. Il y aura toujours, n'est-ce pas, dans toute parole de l'Écriture, il n'y aura pas simplement une assertion dont il faudra comprendre de mieux qu'on peut le sens premier, n'est-ce pas, mais se projetant de cette lettre, sortant de cette lettre, il y aura une vérité qui va s'épanouir et se projeter dans le temps. C'est l'esprit de la prophétie. Eh bien, nous, c'est cela, nous. Les docteurs de l'Évangile, si vous voulez, les prophètes de l'Évangile, vont dire, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, nous disons, ils vont dire, ils vont enseigner, ils vont proclamer, ils vont dire ce que nous savons, c'est-à-dire ce dont nous sommes sûrs, ce qu'ils savent avec certitude. Mais ils vont pouvoir dire des choses dont ils auront eux-mêmes certitude. Ils vont avoir dans le cœur une abondance, une révélation solide, inébranlable de la vérité. Ils vont dire ce qu'ils savent avec certitude, car leur parole sera un témoignage. Et nous rendons témoignage. On pourrait ajouter un mot pour bien comprendre. Et ainsi, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et ainsi, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est-à-dire, je vous l'ai déjà dit cela, n'est-ce pas ? Nous rendons témoignage, le témoignage, attention, ce mot a beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de force que le sens qu'il revêt habituellement, n'est-ce pas, dans le langage courant, le témoignage d'une chose, n'est-ce pas ? Mais là, il y a une grande force. Parce qu'il s'agit des choses de Dieu, forcément. Alors les mots revêtent une force particulière. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est-à-dire, non pas seulement de ce qu'on va voir par les yeux de la tête, mais des choses saisies par révélation. Et ce sont des choses saisies par révélation qui sont des choses vues. Des choses saisies par les révélations, le regard de ces prophètes de l'Évangile va aller plonger jusque dans les profondeurs de Dieu
Il va monter dans les hauts lieux, dans les lieux célestes. Il va, là, pouvoir entrer, regarder, à la manière, n'est-ce pas, de Jean qui est ravi en esprit et qui voit des choses là-haut. Eh bien, ils vont voir ainsi. Et c'est bien ce qu'a voulu dire Jésus. Pour bien le comprendre, il faut nous revenir à Matthieu 11 et verset 25, ce beau passage. Un de ces passages clés, ces passages dont il faut toujours se souvenir. Matthieu 11, 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Pas les gens qui ne sont comme, qui marchent comme les certains chiens, n'est-ce pas toujours le nez dans la poussière. Ça, « Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Aux enfants. Et les enfants qui sont ces enfants, ah, ne sont pas des grands savants, ceux-là, c'est l'opposition avec savants, sages et intelligents, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui ne veulent savoir. C'est vrai, papa? N'est-ce pas? Ils ont toujours cette soif de la vérité. Ils reçoivent la vérité, ils l'aiment la vérité, ils la saisissent, elle est belle, elle vient de leur père. Ce sont ces enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Esprit de la prophétie avec une base révélation. Voilà. Il faut comprendre cela, n'est-ce pas? Comprendre cela et se sortir de toute autre pensée, de toute autre idée, n'est-ce pas? Nous faisons des idées fausses. Pour connaître, savoir. Voilà le processus. Le voilà le processus. Il n'y en a pas d'autre. Absolument pas d'autre. Et il est important, quand Jésus a prononcé cette louange à son Père, je te loue, Père, parce qu'il a tressailli en esprit. Mais hélas, le dernier membre de phrase, la dernière proposition, là, du verset 11, est tragique. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Hélas. Et là, ce beau, ce magnifique témoignage d'une vérité si utile aux hommes, vous ne le recevez pas, vous manquez d'une foi libre, d'une foi humble, d'une foi avide pour le recevoir. Et ce sera un grand drame sur la terre. Pendant la carrière de l'Église jusqu'au retour du Seigneur, on recevra peu, quelquefois on recevra pas du tout. Dans de larges fractions de l'humanité, surtout en notre temps, on sera fermé à ces choses. On ne recevra rien de tout cela en certains temps ou en certaines fractions de l'humanité, en certains lieux peut-être aussi. N'est-ce pas? On ne reçoit rien. Et même parmi les hommes, n'est-ce pas? Si l'on trouve des gens qui reçoivent, ils sont encore, surtout dans notre temps, un petit nombre, un tout petit troupeau. Vous ne le recevez pas. Vous ne recevez pas. Et chers amis, je connais des gens qui ont fait de brillantes études en théologie, par exemple, devenant pasteur dans une université, dans une faculté de théologie, devenant même docteur, des gens qui ont même deux doctorats, vous en trouverez dans le catholicisme, des gens qui ont un double doctorat, n'est-ce pas, ce sont des gens calés, ils ont écrit un tas de choses, ils ne comprennent rien, ils n'ont aucune révélation, rien, rien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Lamorte, André Lamorte, qui est un excellent ami et que j'aime beaucoup, et qui est un homme de foi, un homme humble, il a deux doctorats. Il a un doctorat en théologie, ce qui est une chose difficile. Ça s'obtient, c'est encore le régime napoléonien, ça s'obtient différemment des autres doctorats. Il a un doctorat en théologie, un doctorat et lettres. Un doctorat, alors ce doctorat et lettres, évidemment, d'une faculté obtenue dans une faculté de Strasbourg, faculté d'État, hein, faculté rattachée à l'université. Eh bien, Monsieur Lamorte, qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui aime tant en parler, n'est-ce pas, m'a dit un jour avoir été invité dans un congrès de théologiens quelque part en Autriche, je crois. Alors, vous savez, il y a eu beaucoup de foyers de théologie, d'études très savantes, très poussées en Allemagne, en Autriche, théologie protestante. Eh bien, il s'est trouvé là, au milieu donc d'un certain nombre de confrères. Et chaque invité avait un temps pour faire une communication, faire un petit discours, ne pas dire ce qu'il voulait. Monsieur Lamothe, son tour étant arrivé, n'est-ce pas, monte à la chaire et puis dit, eh bien, moi, voilà, je suis né de nouveau. Et il dit son expérience, n'est-ce pas, il donne un témoignage de la nouvelle naissance. Puis après lui, il y a eu un temps de récréation dans la cour, n'est-ce pas, tout le monde est allé se détendre un peu, se promener. Alors, beaucoup sont venus aborder M. Lamothe et lui dire, dites, mon cher confrère, oh, ce que vous nous avez dit est une chose extraordinaire. Mais voyons, c'est une façon d'exprimer des choses, oui, nous comprenons bien. Ben, faut pas prendre ça comme une réalité, n'est-ce pas? C'est pas une réalité, ça, vous nous avez dit. Vous avez sans doute, n'est-ce pas, votre pensée a changé, a évolué, peut-être. C'est heureux, bien sûr. Il faut bien qu'il y ait quelque chose d'original chez l'un, chez l'autre. Ben, enfin, ce que vous nous avez dit, vous avez semblé nous le donner comme une réalité. Ben, c'est pas ça, c'est pour donner plus de force à votre discours, peut-être. N'est-ce pas? Alors, M. Lamothe s'est débattu, a dit, mais non, je vous dis que c'est une réalité. Je ne vous dis pas que c'est une manière de penser nouvelle, je vous dis que c'est une réalité. Eh bien, cet homme, ces hommes, n'est-ce pas, ces grands docteurs de la théologie étaient là tout autour. C'est vrai, mais c'est pas possible. Les choses comme ça, oh, ils ont discuté entre eux. Ils étaient ébahis, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Vous voyez, n'est-ce pas, vous ne le recevez pas. Et c'est fermé volontairement par Dieu. Nous avons lu dans Matthieu 11, c'est Dieu a mis une fermeture. Alors, qu'on n'entende pas ce que j'ai quelquefois entendu, n'est-ce pas, dans nos milieux, dans notre milieu, n'est-ce pas. Oh, ben, cet homme-là est intelligent, il doit comprendre. Ça ne veut rien dire, cela. Absolument rien dire. Ce n'est pas son intelligence ou son niveau de culture qui lui fera comprendre cela. Au contraire, ça risquera de le fermer. N'est-ce pas? Si il s'attache à sa culture, si il mise tout là, n'est-ce pas, au lieu de considérer cela comme de la boue à cause de l'excellence de Christ, eh bien, il risquera d'être fermé. Dieu l'a voulu ainsi. Vous ne recevez pas notre témoignage. Voyez comme les paroles du Seigneur ont de la force ici. Le verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et nous allons y mettre le verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là aussi, c'est assez difficile à comprendre. Vous voyez, il y a ça vraiment un certain mystère malgré tout sur cette parole. Et puis même il y a là une parole qui est un peu amphibologique, n'est-ce pas? Le ciel, on ne sait pas s'il s'agit vraiment d'aller dans le ciel, d'aller dans les lieux appelés ciel, d'y aller physiquement, d'y aller avec une personne physique. Comme l'a dit Paul, n'est-ce pas, je ne sais si c'est avec mon corps ou sans mon corps, n'est-ce pas. Et puis, il y a aussi une conception du ciel qui est différente, là, dans le même verset, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Alors là, nous voyons très bien le transfert, n'est-ce pas, bien que ce ne soit pas une personne physique, mais le transfert de la parole de Dieu, qui est une personne divine, n'est-ce pas, descendant pour prendre le corps parmi les hommes. Bon, mais le Fils de l'homme qui est dans le ciel, il est dans le ciel, c'est un présent. Or, le Fils de l'homme, il est là, par terre, il est en train de parler à Nicodème, c'est ça, voyez-vous. Alors là, il y a une difficulté. Nous allons voir comment les choses peuvent se comprendre. Pour être à même de recevoir la vérité qui monte jusqu'au céleste, n'est-ce pas, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses céleste. La vérité monte jusqu'au céleste. Elle nous emmène, elle nous fait quitter la terre, et elle nous amène dans des régions spirituelles, elle nous amène à considérer des secrets divins, à regarder, n'est-ce pas, à pleine vue, sur un mystère, le mystère de Christ, qui ne peut pas être soumis à l'examen logique d'un esprit d'homme. Alors, cette vérité va monter jusque-là. Il faut, pour la recevoir, cette vérité, d'abord appliquer sa foi aux choses terrestres. Si vous ne croyez d'abord dans les choses terrestres, c'est-à-dire, que Jésus, qu'est-ce que Jésus entend par les choses terrestres? Eh bien, ce sont les faits qui sont survenus sur la terre par la puissance de Dieu et qui sont rapportés par les Écritures dans un cadre historique. Il faut croire et comprendre ce qui s'est déroulé sur la terre et qui fait l'objet déjà des Écritures et surtout de l'Ancien Testament, ce qui s'est déroulé sur la terre. Il faut comprendre cela, il faut y attacher sa foi, et cela préparera, celui qui attachera sa foi aux choses terrestres, sera préparé à comprendre la révélation directe et sublime des secrets d'en haut, des secrets de Dieu, les choses appelées les choses célestes. Des grands secrets, les apôtres eux-mêmes ont dit à leur Seigneur, tu nous as jusqu'ici enseigné en parabole, mais maintenant tu nous parles directement, nous sentons bien que tu nous parles directement, et chose extraordinaire, eh bien il nous semble que nous comprenons, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, dans les choses terrestres, il faut connaître l'état de péché de l'homme, il faut voir tout ce que la Bible nous raconte pour nous montrer l'homme dans son état de péché, nous montrer l'origine de cette, nous instruire de l'origine de cette, tout ça s'est déroulé sur la terre. Le jardin d'Éden était sur la terre. Tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, que nous avons étudié dans la Genèse, tout ça, ça se déroule sur la terre. Alors il faut croire, si je commence dans la Genèse à faire l'intelligent, n'est-ce pas, et à dire, oh, vous comprenez, c'est une parabole, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie, ce sont des paraboles, ça, n'est-ce pas, je vais parler de fruits, tout ça, bon oui, monsieur. Ça n'existait pas, ça, c'est pas comme ça. Non. Si je n'applique pas ma foi à ces choses telles qu'elles me sont dites, eh bien, je suis impropre, et la démonstration en était faite combien de fois, impropre à comprendre l'Évangile, le reste. Les choses célestes, surtout l'Évangile, eh bien, je suis impropre, je me rends moi-même impropre à cela. Ainsi donc, il faut connaître l'état de péché, l'origine de cet état, la nouvelle naissance d'eau et d'esprit dont parle ici Jésus, c'est encore quelque chose, n'est-ce pas, qui est appelé à se produire pendant le séjour de l'homme sur la terre. Et ça fait partie encore du cadre des actions terrestres de Dieu, n'est-ce pas? C'est encore sur la terre. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne vous attachez pas à cette nouvelle naissance alors que ça doit se produire pendant que vous êtes sur la terre, les choses célestes, elles resteront alors fermées. Le ciel qui est ouvert au-dessus, n'est-ce pas, de nos têtes maintenant, ben pour vous, il sera un ciel bouché. L'homme doit donc apprendre à s'appuyer sur l'Écriture et sur les faits historiques. Dieu nous instruit par une histoire. Ces choses leur sont arrivées, dit Paul. Comprenons cela, n'est-ce pas, l'importance de cette déclaration. Ces choses leur sont arrivées afin que vous croyez, pour votre instruction à vous qui êtes à la fin des temps. Ça, ces choses leur sont arrivées, elles sont un sujet, il faut vous réaviser ces choses. Il faut croire. Et quand je vois qu'on discute, quand je vois des gens qui me disent le déluge, oh, vous savez, ça a dû être une petite mare quelque part, là, dans un endroit très bas de la terre, pas, mais c'est pas quelque chose qui a pu gagner toute la terre, n'est-ce pas? Et puis on discute autre chose, n'est-ce pas? On lit des livres aussi qui désagrègent la foi, n'est-ce pas? Puis alors après, oh, je comprends pas, oh, je vois pas, alors on est privé de cette foi capable de prendre son essor vers les choses célestes. L'homme doit donc s'appuyer sur les faits historiques que nous rapporte l'Écriture, et sa foi doit ainsi, par le moyen de ces choses, s'éduquer. Il y a une éducation de la foi, et Dieu a donné ces choses dans l'Ancien Testament, essentiellement pour l'éducation de la foi. Ces choses ont été écrites pour votre instruction. Une éducation de la foi, une discipline de la foi, n'est-ce pas? Alors la foi va saisir les éléments de base, touchant l'homme, touchant les grands caractères de la justice de Dieu, et c'est alors, une fois éduquée, que cette foi pourra s'élever jusque dans les célestes et pénétrer les réalités spirituelles qui sont donc réservées à ceux qui ont honoré Dieu par une foi sainte appliquée aux choses terrestres. Et personne ne peut accéder aux choses célestes, c'est ce que veut dire dans le verset 13, personne n'est monté au ciel. Alors là, le mot ciel est employé dans un sens, n'est-ce pas, de choses célestes. Le Seigneur vient de parler des choses célestes. Alors il dit personne n'est monté au ciel, personne ne peut naturellement y arriver à ces choses célestes. Allez voir là-haut ce qu'il y a, n'est-ce pas. Personne ne peut accéder aux choses célestes, à la connaissance des divins secrets, à la connaissance de l'amour de Dieu, ne peut accéder non plus à la communion dont parlera Jésus dans Jean 17, à la communion de Dieu. Mais seul celui qui est descendu du ciel, alors là, du ciel vraiment, il est descendu du ciel, il a été transféré de haut en bas, celui qui est descendu du ciel et qui est toujours dans le ciel, il est descendu du ciel mais il est toujours dans le ciel, parce qu'il est toujours en communion avec le Père, ce qui nous sera dit, n'est-ce pas, dans Jean 17, il est toujours un avec le Père, toujours en communion, alors il est bien descendu du ciel, mais il est quand même, n'est-ce pas, toujours dans le ciel. Alors celui-là qui plonge dans le ciel, celui-là qui est en communication directe avec le ciel est ouvert pour lui, il n'est pas séparé du ciel, bien qu'il soit descendu du ciel envisagé comme un lieu, il est descendu, n'est-ce pas, mais il est toujours dans la pensée du Père, dans le cœur du Père, et il lit directement dans les pensées du Père. Hein. Alors celui-là, eh bien c'est lui qui pourra faire quelque chose, ben, mais l'homme ne peut rien faire de lui-même. Mais il faut cependant que, et la nouvelle économie ce sera cela, que vous alliez dans les célestes, vous aussi. Il ne faut pas seulement que celui qui est descendu du ciel y soit, n'est-ce pas? Il faut que vous y soyez aussi, il faut que vous y montiez. Et c'est ainsi que nous avons, dans une certaine épître de Paul, ceci, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, ben, il faut que nous soyons allés là-bas, dans les célestes, dans les lieux célestes, que nous ayons, comme Christ, quand il était sur la terre, était dans le ciel, ben, il faut que nous, étant sur la terre, nous soyons de la même manière que lui aussi dans le ciel. Ça, c'est très net, ce que je vais vous citer, c'est Éphésiens 2:6. Et le verset 14, je me dépêche un peu parce qu'il faut que nous arrivions à terminer au verset 15. Verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je pense que vous connaissez cette histoire du désert, étant donné le mauvais comportement du peuple d'Israël. Dieu avait permis que le désert fût envahi de serpents brûlants. Ils sont appelés comme ça, serpents brûlants. Et ces serpents venaient et ils piquaient beaucoup de membres du peuple d'Israël. Et alors, quand quelqu'un était piqué, c'était la mort irrémédiable. Enfin, Dieu avait permis cela, c'était un châtiment, c'était une grosse épreuve, n'est-ce pas? Bon, alors le peuple, naturellement, quand il est coincés comme ça, n'est-ce pas, hein, ils ne voient plus d'issue, ces serpents, il n'y a rien à faire, ils sont là, on essaie de les faire entrer, on empêche de leur entrer d'un côté, ils rentrent de l'autre, n'est-ce pas, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, ils sont là parce que Dieu l'a permis, Dieu l'a voulu. Alors ces serpents, alors on crie au Seigneur, hein, quand il n'y avait pas de serpents, criez pas, mais maintenant qu'il y a des serpents et qu'on meurt, n'est-ce pas, on crie au Seigneur, 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 mais sauve-nous de tout ça, sauve-nous Seigneur. Ah oui, eh bien, vous êtes rentrés dans le péché, dans l'iniquité. Bon, je vais vous sauver de l'iniquité, mais je vais vous sauver en vous apprenant quelque chose dont il va falloir se souvenir dans les siècles à venir, et quelque chose qui va vous révéler l'essence même du salut que je donne aux hommes. Voilà comment Dieu a voulu. Alors, le Seigneur va dire à Moïse, tu vas prendre une grande perche, et puis tu vas te fondre un serpent d'airain, serpent tout semblable à ces serpents brûlants, tu vas en faire un, n'est-ce pas, tu vas le mouler, et puis en airain, et puis tu le mettras, n'est-ce pas, au bout d'une perche. Ça pourrait être quelque chose comme ça, n'est-ce pas, une grande perche, n'est-ce pas, Moïse, n'est-ce pas, et puis là au bout, ben, il y avait un serpent, n'est-ce pas, un serpent en airain. Bon, l'instruction de Dieu était celle-ci. Quand quelqu'un sera piqué par un serpent brûlant, eh bien, il pourra éviter la mort à une condition de regarder dans le haut de la perche, de regarder le serpent des reins. Voilà. Chose bizarre, curieuse, pourquoi Dieu fait-il cela? C'est drôle d'être sauvé simplement en regardant un petit serpent des reins. Alors ceux qui raisonnaient, il y avait déjà, n'est-ce pas, une disjonction entre deux catégories d'hommes. Il y en avait qui disaient, comme si ça regardait un machin des reins, ça allait me sauver, ça allait me guérir. Non, non, c'est pas ça, il faudrait un médicament, il faudrait quelque chose, n'est-ce pas? Vous, c'est pas de regarder ça que je vais être guéri, allons, c'est pas la peine. Oh non, Moïse, il a dû se tromper, c'est pas ça que Dieu peut avoir dit, n'est-ce pas? Bon non, c'est enfantin ça de regarder un serpent des reins, mais bon, je veux pas faire quelque chose comme ça, moi, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas mourir. Ça, et ceux qui ne consentaient pas à regarder mouraient, ceux qui regardaient étaient sauvés. Eh bien, quelle est la signification de cela? Jésus reprend cela, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils soit élevé. Élevé, et nous savons par un autre passage, n'est-ce pas, que cela veut dire, passage de Jean même, cela soit élevé sur la croix. Lui aussi, il est cloué, n'est-ce pas? Que de même que le serpent a été mis au bout d'une perche, n'est-ce pas? Eh bien, Christ a été monté sur la croix, n'est-ce pas? Il a été élevé, effectivement, les croix qu'on employait, c'est des croix assez haute, n'est-ce pas? Et l'homme était là, élevé, mis en évidence. Alors, il faut comprendre tout de même, n'est-ce pas, le pourquoi spirituel de tout cela. Eh bien, je vais vous le dire. Le serpent brûlant du désert, était un fléau permis par Dieu. Et ce fléau, dans le serpent des reins, il était là représenté comme vaincu. Son exposition au bout d'une perche, n'est-ce pas? Ça représentait donc un serpent qui était mort, n'est-ce pas? Il était dans les reins, mais ça représentait un serpent mort, cloué là, et par conséquent vaincu. Le fait de son exposition sur l'ordre de Dieu est donc une défaite du serpent brûlant, une défaite du fléau. Mais ce qui est exposé au bout de la perche, ce n'est pas un des serpents brûlants qu'on a attrapé, auquel on a coupé la tête, n'est-ce pas, et puis qu'on a mis au bout d'une perche. Non, il était en airain, celui-là. Il était en airain. C'est pas un des serpents. Si ça avait été un des serpents, eh bien, on aurait dit, j'en fais un de moins, mais comme il y en avait une multitude, ça n'aurait pas été un gain, ça n'aurait pas été une délivrance pour le peuple, ça aurait été un serpent de moins. Bon, ça ne donnait pas grand-chose, n'est-ce pas? Ça ne donnait pas grand-chose. Mais le serpent des reins, c'est un type de tous les serpents, et Dieu avait voulu que ce soit la représentation, si vous voulez, du fléau, qui était l'ensemble des serpents brûlants. C'est le type de tous les serpents, c'est l'espèce entière du serpent brûlant. C'est l'espèce entière qui est là au bout de la perche. Et si le regard d'un homme qui a été piqué et que la mort va saisir, alors si le regard de cet homme blessé est porté sur ce type, n'est-ce pas, eh bien, il obtient son salut. Il a porté là, et en somme, n'est-ce pas, Dieu lui donne à ce moment-là, à cause de son regard qui est un regard d'obéissance, sans autre compréhension de la chose, eh bien, Dieu, à ce moment-là, lui donne la vie sauve, autrement dit, le salut, parce que, en somme, cet homme s'est approprié la défaite de l'espèce serpent brûlant, n'est-ce pas? Il s'est approprié cette défaite. Et vous allez voir l'application que Jésus en fait à son cas, à sa propre expiation. En somme, en la personne du Seigneur Jésus, le péché est exposé publiquement. Hein? Il est exposé publiquement. D'ailleurs, c'est bien ce que nous dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses, étiez morts. » Bon, mort. « Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, qui subsistaient contre vous, et il l'a détruit en le clouant un roi. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Elles sont livrées en spectacle, ben, et ça, tout le péché que Jésus prend sur lui, n'est-ce pas, est cloué là en spectacle. Avec les conséquences du péché, tout y est, ben, le péché lui-même est publiquement exposé. Voilà ce qu'ont fait les dominations, n'est-ce pas, parmi le monde des hommes, les dominations et les autorités, c'est-à-dire Satan et toute son armée, ben, voilà ce qu'ils ont fait. C'est le monde des serpents, le monde des serpents brûlants, ils ont fait cela, et bien voilà, voici quelqu'un, n'est-ce pas, qui est là, il est fait péché, il est un type, par conséquent, de ce péché, il a pris une chair semblable à celle du péché, et il charge cette chair, non pas des siens, il n'en a pas, mais il charge cette chair des péchés des autres, il les prend sur lui, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que Christ les prend sur lui, n'est-ce pas? Et il est le type cloué à la croix, il est le type du péché, il est l'ignominie cloué à la croix. Hein? Et c'est publiquement exposé, cela. Alors, le péché est exposé, mais exposé. Il est exposé comme vaincu. Il est exposé, n'est-ce pas? Après, le Seigneur dit bien, avant de monter sur la croix, Satan est déjà vaincu, n'est-ce pas? Ce péché est vaincu, il est vaincu, n'est-ce pas? Si on avait mis sur la croix un pécheur, un des nombreux pécheurs parmi les hommes, ben, ça aurait été un châtiment particulier pour ce pécheur-là, d'être crucifié. Il l'aurait mérité, bien sûr, mais ça nous le mériterions tous. Mais ça ne ferait qu'un châtiment particulier, personnel. Puis alors, c'est pas comme ça que ce sauveur, ce pécheur, pourrait être sauvé, n'est-ce pas? Il ne serait pas sauvé, puisqu'on le ferait mourir, n'est-ce pas? Pour son propre péché. Ça ne peut pas être donc un pécheur, mais ça peut être celui qui est saint, qui est juste, celui qui, pour sa personne, n'a rien de tout cela, de cette ignominie, mais qui prend ce charge de cette ignominie, n'est-ce pas, et devient le type de tous les pécheurs, pas d'un seul pécheur, mais de tous les pécheurs. Il est le porteur de toute l'humanité pécheresse, alors il est là cloué, c'est toute l'espèce du péché, toute l'espèce, comme c'était toute l'espèce des serpents, n'est-ce pas, qui était là, représenté en type dans ce serpent d'airain, eh bien là, réellement, c'est toute l'espèce des pécheurs, c'est-à-dire toute l'humanité, toute l'espèce humaine, qui est là, dans son ignominie, affichée là, n'est-ce pas, condamnée là, n'est-ce pas, elle est là. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, comment avoir le salut? Eh bien, le salut résultera d'un acte de foi, c'est-à-dire d'un regard. Et pourquoi le Seigneur dira, celui qui voit le Fils, d'un regard porté sur le crucifié, c'est-à-dire porté sur le péché dans son exposition publique, le péché vaincu, le péché là est la défaite du péché, là est la destruction du péché, n'est-ce pas, là, sur cet homme qui est exposé, qui est pendu là, au bois de la croix, n'est-ce pas? Eh bien là, alors si je regarde là, j'obtiens le salut. Simplement cela, n'est-ce pas? C'est cela que Dieu a voulu. Et c'est cela que Christ rappelle à Nicodème maintenant. Afin que quiconque croit en lui, ça c'est le fait, c'est le regard, n'est-ce pas? Croit en lui, est la vie éternelle. Et nous arrêtons là maintenant.